VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 14 août 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Burkina Faso, nouvelle attaque terroriste contre un restaurant de Ouagadougou, la capitale.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra avertit les groupes armés que la justice sera implacable.
Au Kenya, l'opposant Raila Odinga refuse toujours de reconnaître sa défaite et demande à ses partisans de rester mobilisés.
Ici aux États-Unis, défense du président Donald Trump et critique aussi après la manifestation tragique de groupes d'extrême droite ce week-end à Charlottesville, en Virginie.
Le président de la Colombie demande aux États-Unis de ne même pas envisager une intervention militaire au Venezuela.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 17 morts et 8 blessés, c'est le bilan d'une nouvelle attaque survenue la nuit dernière sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou, où des terroristes ont attaqué le restaurant Istanbul. Ce restaurant est situé à environ 200 mètres du café Cappuccino, qui avait été en janvier 2016 la cible d'une attaque djihadiste sanglante. Cette attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique avait fait 30 morts et 71 blessés, en majorité des étrangers. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon nous parle du dernier attentat contre un restaurant de la capitale burkinabé.
Les tirs, l'arme lourde et légère ont encore retenti au centre-ville. Les terroristes, au nombre de 3 selon plusieurs sources, ont fait irruption sur l'avenue Kwame Nkrumah, à quelques centaines de mètres seulement du café Cappuccino. Et depuis 20h30 environ cette nuit, les forces de défense et de sécurité burkinabé travaillent à neutraliser ces assaillants au café-restaurant Istanbul. Plus de 6 heures après l'engagement des combats, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue d'une réunion de crise. Le ministre Rémi Danguinou regrette de nombreux morts et blessés.
À cet instant-là, nous pouvons faire un bilan provisoire de 17 personnes tués et de 8 blessés. Les terroristes ont été confinés dans une partie de l'immeuble. Nos forces de défense sont en train donc de finaliser le travail de récupération de cet immeuble et de sécurisation de l'espace. On a parlé de 2 ou 3 assaillants, mais ils peuvent être nettement plus.
Alors que les tirs se poursuivaient encore à 3h du matin, le ministre Danguinou a annoncé un nouveau point que devrait faire dans la journée le procureur Maïsa Sérémé pour faire la lumière sur cette deuxième attaque terroriste au cœur de la capitale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Sévère mise en garde du président centrafricain Faustin Archange Touadéra aux groupes armés qui sévissent à travers la République centrafricaine. La justice sera implacable, a-t-il dit. Son avertissement intervient alors que la communauté internationale s'inquiète des risques de génocide dans ce pays, ravagé par des conflits depuis 2013. Gaby Dorsil nous en dit plus.
Je demande aux groupes armés d'arrêter toutes les hostilités conformément à leurs engagements, a déclaré le président Touadéra dans un discours marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la RCA. Cet appel sera-t-il suivi ? Impossible de pronostiquer puisque plusieurs autres appels sont jusqu'ici restés sans effet. Quoi qu'il en soit, une cour pénale spéciale qui doit instruire et juger les multiples crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003 devrait commencer son travail d'enquête vers octobre prochain. Des actes de violence ont été enregistrés récemment dans le centre, le nord, le sud et l'est du pays et au moins 60 personnes ont été tuées. Cependant, Bangui, la capitale, a été épargnée. La reprise des opérations des groupes armés serait liée au départ de la force française Sangaris, souligne l'agence France-Presse qui rappelle que les interventions françaises et onusiennes ont contribué à réduire les violences en Centrafrique, même si la paix n'est pas revenue totalement dans le pays.
Les messages de félicitations de la communauté internationale se multiplient à l'endroit du président kényan Uhuru Kenyatta, proclamé vainqueur de la présidentielle. Cependant, le principal candidat de l'opposition, Raila Odinga, refuse de reconnaître sa défaite et demande à ses partisans de rester mobilisés. Les précisions de Rosine Munezero.
Sorti de son mutisme qu'il observait depuis l'annonce des résultats vendredi soir, Raila Odinga a promis hier qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection du président sortant. Il devrait préciser sa stratégie demain mardi, mais il a écarté un recours devant les instances judiciaires, appelant plutôt ses partisans à ne pas s'aventurer dans la rue pour leur propre sécurité. Toutefois, M. Odinga était dimanche dans 2 des bastions de l'opposition, Kibera et Matare, au milieu d'une foule qui scandait des slogans hostiles au pouvoir et rejeté le verdict annoncé par la commission électorale et apparemment corroboré par les observateurs internationaux. Le chef de file de l'opposition kényane a demandé à ses partisans de rester chez eux aujourd'hui en signe de deuil pour les victimes des violences électorales qui ont fait au moins 16 morts depuis vendredi. Les correspondants de presse ont signalé des affrontements violents hier, mais ces incidents ont été circonscrits dans les quartiers favorables à l'opposition.
En Somalie, l'un des chefs des combattants islamistes Shebab, Mukhtar Robo, a fait défection et s'est entretenu dimanche avec des responsables gouvernementaux, selon un responsable local. Sa défection ferait suite à une attaque de Shebab contre lui la semaine dernière.
La crise migratoire en Europe a pris un nouveau tournant avec l'annonce par Tripoli de l'intensification des contrôles au large des côtes libyennes. Une mesure qui affecte directement les ONG opérant dans la zone. Celles-ci ont pour la plupart suspendu toutes leurs activités. Jean-Roger Bion.
La décision des autorités libyennes a contraint l'organisation Médecins sans frontières à suspendre les opérations de Prudence, le plus gros navire de secours aux migrants en Méditerranée. Deux autres organisations non gouvernementales, CI de l'Allemagne et Save the Children de la Grande-Bretagne, ont également décidé de garder leur navire à quai. Pour CI, leur départ crée un vide mortel, tandis qu'un responsable de Save the Children déplore le fait que les embarcations de migrants vont devoir retourner en Libye, ce qui causera la mort de beaucoup d'enfants et d'adolescents. Selon l'AFP, seule l'organisation espagnole Proactiva Open Arms, dont les deux bateaux se trouvaient hier à Malte, a assuré vouloir reprendre ses opérations dès ce lundi. Le gouvernement italien a salué la création par la marine libyenne d'une nouvelle zone de recherche et de sauvetage sous sa responsabilité directe, excluant les ONG que la Libye accuse de faciliter la tâche aux passeurs et trafiquants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Etcha McMaster, le conseiller présidentiel en matière de sécurité nationale, estime que la violence mortelle qui a éclaté samedi lors d'un rassemblement de tenants de la suprématie blanche à Charlottesville en Virginie correspond à la définition du terrorisme. Monsieur McMaster réagissait hier sur ABC News à la tragédie au cours de laquelle une voiture a foncé sur une foule de contre-manifestants tuant une femme de 32 ans. Heather Heyer et blessant 19 autres personnes. C'est un acte criminel qui peut être motivé par cette haine et ses préjugés raciaux, a déclaré le conseiller présidentiel. Deux policiers de l'État de Virginie qui surveillaient les manifestants avec leur hélicoptère ont été également tués dans le crash de leur appareil. Hier, la Maison-Blanche a défendu la réaction du président Donald Trump, qui a été critiqué pour n'avoir pas explicitement condamné les groupes d'extrême droite. Elle a écrit dans un communiqué que le président américain condamne toutes les formes de violence, les préjugés et la haine, et cela inclut bien sûr les tenants de la suprématie blanche, le KKK, les néo-nazis et tous les groupes extrémistes. Et M. Trump a appelé à l'unité nationale.
Le général Joe Dunford, chef d'état-major inter-armes des États-Unis, est en visite dans la péninsule coréenne alors que les exercices militaires américano-sud-coréens risquent d'exacerber les tensions avec la Corée du Nord. Le général Dunford a dit que cette visite vise à rassurer les alliés sud-coréens et japonais tout en construisant la relation entre militaires américains et chinois pour éviter d'éventuels mauvais calculs. Pendant ce temps, de hauts responsables américains de la sécurité ont déclaré hier que la confrontation militaire avec Pyongyang n'était pas imminente, mais que la possibilité d'une guerre s'est accrue.
Le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, a déclaré qu'aucun pays d'Amérique latine n'accepterait une intervention militaire américaine au Venezuela, quelle que soit sa forme. Elle ne devrait même pas être envisagée, a-t-il ajouté. M. Santos a donné hier une conférence de presse conjointe avec le vice-président américain Mike Pence à Carthagène. Le président Donald Trump avait dit vendredi ne pas écarter l'option militaire pour aider à restaurer la démocratie au Venezuela. M. Pence ne l'a pas non plus écarté, mais il n'a pas parlé directement d'intervention militaire.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho d'Elidico.
Le Tchad décide d'ouvrir intégralement ses frontières aux ressortissants de la CEMAC pour permettre la libre circulation des personnes. Dans une note, les autorités tchadiennes ont indiqué que tout ressortissant d'un État membre de la communauté détenteur d'une pièce d'identité sécurisée, passeport ou carte d'identité, en cours de validité, n'est plus soumis à l'obligation de visa ou de sortie pour tout séjour n'excédant pas 3 mois. Il s'agit d'une étape importante dans le processus d'intégration qui sera bénéfique pour l'économie régionale. Au Zimbabwe, les autorités viennent d'approuver un investissement d'$1 milliard pour la construction d'une université en l'honneur du président Robert Mugabe, ce qui, selon l'agence Bloomberg, représente un quart du budget national estimé à $4,1 milliards. Le Zimbabwe étant en pleine crise économique, cette annonce ravive les craintes d'un retour à l'hyperinflation de 2008. La banque import-export des États-Unis, Exim Bank, va débloquer 26 milliards de francs CFA pour la construction et la réhabilitation des stades et des hôtels pour la CAN 2019 que doit organiser le Cameroun. Les travaux seront conduits par l'entreprise américaine Prime Potomac et créeront 800 emplois. Chaque stade disposera d'une mini-centrale solaire pour son illumination.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Athlétisme avec les Mondiaux de Londres. Les rideaux sont tombés sur cette édition de 2017 et Caster Semenya s'impose sur 800 mètres.
Oui, la Sud-Africaine a remporté le titre mondial en 1 minute 55 secondes 92 centièmes. L'athlète de 26 ans retrouve un titre qu'elle avait décroché en 2009 à Berlin et en 2011 à Daegu. La médaille d'argent est revenue à la Burundaise Francine Niyonsamba.
L'Afrique s'est illustrée lors de cette dernière journée. Le Kenyan Elijah Manangoi, sacré sur 1500 mètres.
Il s'impose en 3 minutes 33 secondes en battant le triple tenant du titre, son compatriote Abdel Kiprok, seulement 9e de la course. Et puis sur 5000 mètres, la Kenyan Helen Obiri, meilleure performeuse mondiale de l'année, a remporté le titre mondial devant l'Éthiopienne Almaz Ayana.
On passe au football mondial 2026, le Maroc est candidat.
Après le trio États-Unis-Canada-Mexique, le Maroc est devenu le deuxième pays à déclarer officiellement sa candidature pour accueillir le mondial 2026. Pour cette première édition à 48 équipes, le Royaume a décidé de tenter seul l'aventure, mais une co-organisation n'est donc pas exclue. Il faut préciser que le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a appelé les fédérations africaines à soutenir franc et massif cette candidature marocaine.
Assemblée générale élective à la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor réélu président.
Oui, maître Augustin Senghor rempile pour un troisième mandat. Il a été réélu au second tour devant Mbaye Diouf Dia, 260 voix contre 151. Élu en 2009 et réélu en 2013, l'actuel président de l'UFOA, Union des Fédérations Ouest Africaines de Football, fera encore un mandat de 4 ans à la tête du football sénégalais.
Football toujours, les éliminatoires du CHAN 2018, les rencontres allées du dernier tour ont eu lieu ce week-end.
Oui, et dans la zone Ouest B, le Bénin a pris une courte avance sur le Nigeria 1-0 grâce à Mama Seibou en fin de match. Le Niger a réussi aussi ce premier acte contre la Côte d'Ivoire, victoire 2-1. Par contre, le Burkina Faso a été accroché à domicile 2-2 par le Ghana. Même score entre la Mauritanie et le Mali dans la zone Ouest A. Le dernier match de ce groupe se joue demain à Dakar entre le Sénégal et la Guinée-Conakry.
Dans la zone Nord, la Libye surprend l'Algérie.
Vainqueur de ce CHAN en 2014, les Libyens se sont imposés 2-1 en Algérie. Et puis l'Égypte et le Maroc se partagent la mise, score 1-2. Au sud, les Comores ont dominé la Namibie 2-1. La Zambie est allée chercher le nul 2-2 en Afrique du Sud et le nul blanc 0-0 entre Madagascar et l'Angola.
Le Cameroun a pris une option sur la qualification au centre.
Victoire 2-0 sur la pelouse de Sao Tomé. Bonne opération également de la RDC. Match nul chez son voisin du Congo Brazza. L'Ouganda n'a pas fait de détails face au Rwanda 3-0 et le nul concédé par l'Éthiopie 1-1 face au Soudan.
Direction Europe avec la Supercoupe d'Espagne.
Le Real Madrid s'est imposé 3-1 sur sur la pelouse du FC Barcelone lors de ce match aller de la Super Coupe d'Espagne. Les merengues prennent donc un très net avantage en vue du match retour. Et puis, c'est la Lazio de Rome qui a remporté la Super Coupe d'Italie grâce à son succès de 3-2 devant la Juventus de Turin.
En France, début réussi pour Neymar.
Oui, le Brésilien buteur hier a permis au PSG, son nouveau club, de s'imposer à Guingamp 3-0 en clôture de la deuxième journée de la Ligue 1. Les Parisiens partagent donc la première place avec l'Olympique de Marseille, Lyon et Saint-Étienne.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Alors que la République centrafricaine célébrait hier son 57e anniversaire d'accession à l'indépendance, une partie du pays est toujours en proie aux violences. Lors d'un récent voyage en Centrafrique, Stephen O'Brien, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, a déclaré que les signes avant-coureurs de génocide sont là. Comment cette déclaration est-elle perçue dans le pays? De Bangui, Freeman Sipila.
Cette déclaration de l'ONU a de nouveau alimenté la crainte des Centrafricains qui espèrent voir la fin de cette crise. À Bangui, les réactions divergent. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il est encore possible d'éviter un nouvel embrasement de la situation.
Ça va dépendre de la politique du gouvernement et aussi du changement de mentalité de la population tout entière. Si on prend la conscience, si on change de comportement, on peut s'en sortir dans cette situation.
La population centrafricaine doit s'unir, puisqu'on dit que l'union fait la force. Si la population unit, alors la RCA ne peut pas subir des choses comme ça.
Je ne peux que donner la raison à ce monsieur, parce que vous voyez, la République centrafricaine n'évolue pas. Là, on ne peut pas parler de l'évolution. Mais la République centrafricaine ne vit que de problème en problème.
Pour éviter des pareilles choses comme ça, nous-mêmes, nous les jeunes, nous devons faire des efforts pour faire en sorte qu'on développe notre pays sur le plan économique et social.
Le Conseil national de la jeunesse demeure optimiste quant à l'avenir du pays. Il n'y aura pas de génocide en République centrafricaine, assure Francis Mongombe, président de cette organisation.
Je pense que les risques d'un tel conflit ont toujours été là, mais nous sommes passés à côté du pire. Nous savons tout ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup d'intérêts, des enjeux à la fois géopolitiques, des enjeux diplomatique, mais aussi des enjeux politiques, militaires. Mais nous savons que le vrai Centrafricain n'a jamais voulu de ces conflits. Nous pensons qu'il n'y aura pas de génocide dans notre pays, parce que ce conflit fabriqué, comme nous l'avons dit, de toutes pièces disparaîtra. Il n'y aura pas de génocide, il n'en aura pas, parce que la République Centrafricaine reste un pays d'avenir pour l'Afrique, d'avenir pour le monde.
L'ampleur des violences dans le nord-est et dans le sud-est du pays a suscité de nombreuses réactions à Bangui. Le pouvoir est même régulièrement accusé d'inaction par la classe politique et la société civile. À l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du pays, le 13 août, le président centrafricain a haussé le ton. Il prévient que la justice sera implacable. Faustin Archange Touadéra.
On ne pourra jamais construire un pays dans l'insécurité. Je demande donc aux responsables des groupes armés d'arrêter toutes les hostilités, conformément à leurs engagements. À tous ceux qui pensent qu'ils ont obtenu le droit de tuer les Centrafricains et les éléments de la MINUSCA, venus nous aider à sortir du chaos. À tous ceux qui estiment qu'ils ont trouvé un métier, celui de piller les ressources du pays, de détruire les biens publics et privés, d'incendier des maisons d'habitation, de voler les bétails, je leur dis que le train de la justice va arriver. Quoi qu'il arrive, la justice sera implacable.
Aujourd'hui, la moitié de la population centrafricaine a besoin d'une aide alimentaire pour survivre. Alors que la situation humanitaire se dégrade davantage, les ONG menacent de suspendre leurs activités dans le pays en raison des attaques des hommes armés sur leur personnel et les civils. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Mali, la plateforme Anté-Abana, touche pas à ma constitution, donne au président Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'au 15 août à minuit pour retirer son projet de réforme constitutionnelle, faute de quoi elle se lancera dans une campagne de désobéissance civile. De Bamako, précision de Kassim Traoré.
Deux mois après avoir proposé la révision constitutionnelle, le président malien voit que son projet n'est pas consensuel. Ibeka a aussitôt initié des concertations avec les Maliens. L'objectif est d'avoir un texte consensuel.
Le consensus, l'apaisement, nous cherchons toujours à ce qu'une décision prise au nom de la nation, dans l'intérêt bien compris de la nation, soit partagée par cette nation-là, réunisse et ne divise. Nul ne peut aujourd'hui dire qu'il s'oppose à ce que le peuple malien exerce son droit. Dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle n'est pas républicain et antinational.
Le président malien, qui n'a pas fini ses concertations, a rencontré plusieurs sensibilités, sauf la plateforme Inter-Abana, touche pas à ma constitution, le seul groupe associatif et politique opposé à son projet, d'où le lancement d'un ultimatum. Tcheblin Dramé, membre de la plateforme Inter-Abana.
Nous considérons que l'ordre républicain est menacé quand le président de la République viole la constitution. Et en violant la Constitution, il viole son serment. Parce que dans son serment, il jure devant Dieu et devant le peuple malien de respecter et de faire respecter la Constitution. Alors, en initiant une révision constitutionnelle qui viole l'article 118 de la Constitution, le chef de l'État viole son serment.
Les rebelles Touareg réunis au sein de la CEMA sont aussi opposés au projet présidentiel de révision constitutionnelle. Mais la CEMA ne veut pas être dans les camps de non ou de oui. Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la CEMA.
Parce que nous, au bout du rouleau, nous cherchons un Mali unitaire dans lequel nous, on se retrouve. Mais dans cette forme actuelle aujourd'hui du oui ou non, la CEMA ne pense pas qu'il y aura un Mali unitaire. Donc on se réserve et on attend à ce qu'on revienne sur des meilleurs sentiments et qu'ensemble nous construisons ce qui peut être le Mali pour nous tous.
La campagne de désobéissance civile, pacifique et respectueuse de la loi qui sera lancée le 15 août 2017 n'est pas anticonstitutionnelle. Brahima Fomba, juriste, membre de la plateforme Inter-Abana.
La désobéissance civile, c'est quoi? C'est un régime juridique de revendication populaire dans lequel les citoyens ne reconnaissent plus les autorités de l'État. C'est un régime juridique dans lequel, y compris les lois de la République, les citoyens ne se sentent plus régis par les lois de la République. Donc, on ne reconnaît pas l'autorité.
Avec cette histoire d'ultimatum, les leaders religieux, les familles fondatrices et les chefs de quartier sont entrés dans la danse. Ils demandent un sursis du projet de révision au président Ibeka, Dramane Niaré, patriarche de Niaré de Bamako.
C'est un but précis de Mme Président pour ce choix d'abord de référendum, de ne pas d'annuler de ce soir. Parce que c'est le seul responsable qui peut annuler. Nous, on ne décide rien. On lui demande. On ne fait qu'une proposition. La décision finale, c'est lui. C'est lui le président. Il a le droit. Mais sinon, ce n'est inévitable. Parce qu'il y a l'accord international qu'on a signé. Il faut le mettre en application. C'est ce grandeur qu'on veut qu'il nous montre.
La balle est désormais dans le camp du président Ibeka. Il est le seul à pouvoir retirer ou sursoir au projet de révision constitutionnelle qui divise les Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'apprête à lancer la nouvelle carte d'identification des ressortissants étrangers. Il s'agit de la carte de résident. Prévue pour ce lundi, la cérémonie de lancement de cette carte a finalement été reportée sine die à Abidjan. Les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Pour le directeur général de l'Office national d'identification, l'ONI, la nouvelle carte biométrique de résident devrait permettre à la Côte d'Ivoire de mieux planifier ses politiques de développement à travers une bonne connaissance des flux migratoires. Konaté Diakaridia.
La Côte d'Ivoire s'est engagée actuellement à moderniser son administration, à moderniser sa vie économique. Donc il y a des actions à poser au préalable. Et parmi ces actions majeures, c'est la maîtrise du flux de l'immigration, le déplacement des personnes à travers le territoire. Il est important pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui de le maîtriser en vue de faire une bonne planification de nos équipements collectifs, une bonne planification de nos infrastructures économiques. C'est d'avoir des données exhaustives sur ceux qui vivent sur notre territoire. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et quand comptent-ils retourner dans leur pays ou est-ce qu'il compte rester définitivement dans notre pays? C'est l'objectif de la carte de résident.
La nouvelle carte de résident va coûter 300 000 francs CFA pour une validité de 5 ans et s'appliquera à tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, à l'exception des ressortissants de l'espace CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Konaté Diakaridia, directeur de l'Office national d'identification.
Les citoyens de la CDAO ne sont pas concernés par cette carte parce que nous sommes tenus par des protocoles communautaires de la CEDAO. Et le gouvernement, en 2007, a fait prendre une ordonnance pour supprimer la carte de séjour parce que nous sommes dans un espace communautaire. La Côte d'Ivoire est l'un des leaders de cet espace communautaire. La Côte d'Ivoire voudrait servir d'exemple à cette libre circulation. Mais en même temps, libre circulation ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas connues de notre administration.
La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus ouverts au monde. Plus de 6 millions d'Ouest-Africains vivent sur le sol ivoirien pour une population totale estimée à 23 millions d'habitants. Pour ce jeune Nigérian rencontré dans la commune de Yopougon, ne pas avoir à payer cette carte de résident est une bonne chose. Et cela montre bien que l'intégration ouest-africaine est une réalité.
C'est bon parce qu'on ne nous fatigue plus maintenant. Comme avant, on est libre, on fait les activités tranquilles. Tant qu'on nous arrête, une fois qu'on présente le cas d'identité, et puis on nous laisse en patte, c'est bon.
Selon l'Office national d'identification, plus d'un million de ressortissants étrangers sont concernés par cette carte de résident. Une carte qui devrait également permettre à la Côte d'Ivoire de lutter efficacement contre la fraude sur l'identité. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
De l'inédit au Tchad, le chômage oblige les jeunes garçons à se déguiser en femmes pour séduire les hommes, surtout dans les débits de boissons, nous dit de N'Djamena, André Kotmajingar.
En N'Djamena, capitale du Tchad, les jeunes garçons se méfient désormais de jeunes filles en groupe ou celles qui défilent ces derniers temps dans les maquis ou débits de boissons. Car toute personne habillée au féminin fréquentant les débits de boissons n'est pas forcément une femme. Certains jeunes garçons en complicité avec ces filles en quête des compagnons pour la nuit se métamorphosent et infiltrent le milieu en ce temps de crise économique où les indicateurs sont au rouge. Un jeune homme victime de ce cafouillage corporel témoigne sous l'anonymat.
Nous étions sortis avec mes cousins. On buvait tranquillement. En ce temps, il y avait deux filles qui nous ont approchés. On a trouvé que c'était des filles. Après la fin de la soirée, on a décidé de rentrer à la maison. Mais une fois arrivé à la maison, nous, on a essayé de vérifier, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, au lieu d'une fille, c'est plutôt un garçon. Et c'est ce qui nous a tellement paru un petit peu bizarre.
Le jeune homme, pris en flagrant délit, trouve que cette activité contribue à la dépravation des mœurs. Mais désœuvré, il se livre à ce jeu pour sa survie.
Ce n'est pas pour la première fois que je me suis déguisé en femme pour aller dans des débits de boissons. J'ai séduit facilement les hommes parce que j'ai la morphologie féminine. Et c'est un moyen de vivre pour moi pendant ce temps de crise où il n'y a pas de travail. Je sais que c'est honteux pour un homme de pratiquer cette activité. Mais c'est parce que tous mes parents me rejettent que je me retrouve dans cette situation. Ma mère est décédée et je vis avec ma tante. Celle-ci n'est même pas au courant de la vie que je mène. Je préfère mourir que de vivre cette honte.
Pour le sociologue Mbédé Félix, ce comportement peut être l'une des conséquences de la crise financière et économique, mais il peut être également lié aux anomalies morphologiques de l'homme lui-même.
C'est un phénomène anormal. Le problème, c'est que nous sommes une société qui est sous influence aujourd'hui de l'Occident, mais dans le cadre de notre société, ça blesse les mœurs. Je dirais qu'il y a trois explications à ce phénomène. Il y a la question de la biologie. Il y a des individus qui sont bisexuels. Quand vous le voyez même dans leur apparence physique, parfois vous vous demandez, mais c'est une fille ou c'est un garçon? C'est pas parce que vous avez faim, vous êtes dans la misère, que vous pouvez prendre plaisir à vous déguiser pour devenir une femme. La conséquence, c'est que l'acte de sodomisation va arriver, donc l'homosexualité. La troisième observation, dans la plupart des sociétés, les pouvoirs demandent à certains services de renseignement, de l'espionnage, autres, de se déguiser en femme pour pénétrer certains milieux. Nous l'avons vu sur des questions sécuritaires, les fous de Dieu, entre guillemets, les Boko Haram à l'époque, certains portaient des bombes avec des tenues de femmes. Et là, ce n'est pas pour des questions ni économiques, ni sexuelles, mais c'est pour atteindre parfois des buts machiavéliques.
André Kodumadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.